9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est le retour de Bibou et Bibounette.
Dis Bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui ?
La même chose que tous les mois, mon Bibou. Faire un petit podcast.
Bibou et Bibounette, Bibounette et Bibou, ils se prennent pas la tête et vous donnent rendez-vous. Rendez-vous bonne franquette chez Bibou Bibounette, chez Bibou, Bibou et Bibounette, net, 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 net.
Ah, le retour.
Bonjour à tous et bienvenue chez Bibou et Bibounette, le podcast.
Le podcast qui a lieu, encore une fois, au marathon chez Pépé.
Oui, c'est vrai.
Exactement.
Oui, ah, j'entends le public, oui.
Le public est là, le public est là.
Écoute, comment vas-tu, Bibounette ?
Eh bien, ça va, très contente de me retrouver enfin devant les micros.
Ouais.
Et puis, résolution 2020, plus de podcasts, plus de petites émissions. Plus de bonnes franquettes et de petits rendez-vous Bibou Bibounette.
C'est ça, il ouais, faut dire que le dernier live qu'on a fait, c'était il y a...
6 mois.
Quasiment 6 mois, ouais, on n'a rien fait depuis.
C'est ça.
Mais ça va changer, on va commencer à
changer. Ça va changer, on va
se
ressaisir, ouais. on a eu des petits aléas de la vie qui ont fait que bah, on n'avait pas trop le temps, on était très chaos, donc voilà, on a mis ça de côté, bon c'est pas grave, on est là.
Ok, très bien.
Et du coup, on est là pour une petite émission pendant le marathon.
Ouais, tout à
c'est
fait.
C'est toi qui commences ou c'est moi
qui commence commencer,
C'est
pense,
toi qui
ouais.
commence.
On
D'accord.
va être ensemble pendant une petite heure, peut-être un petit peu moins, on verra un petit peu comment
on
ça
verra,
se passe.
On verra le truc, comment ça se passe.
Voilà.
Et puis voilà. Donc,
on est en live sur Twitch, si tout marche bien, ça a l'air de le faire en fait, apparemment.
Ouais. Donc tout le monde peut nous voir,
voilà.
Ça y est. Vous voyez nos têtes de Bibou et Bibounette. Et vous voyez Vincent, enfin Pépé, en gros plan. Bon ben, quand tu veux.
Ok, eh ben écoute, moi j'ai envie de te parler de Martin Scorsese. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. Though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. Alors voilà, Martin Scorsese. Pourquoi Martin Scorsese ? Tout d'abord déjà à cause de The Irishman en fait qui est passé le mois dernier sur Netflix.
Oui, ça y est, il est sorti.
Il est sorti, ouais.
On l'a attendu.
Ça vient aussi, j'ai voulu en parler par rapport à un bouquin que tu m'as acheté le mois dernier. Bouquin qui s'appelle Conversation avec Martin Scorsese.
On peut même le montrer à la caméra vu que bah,
alors,
on a
je vais
Twitch.
Le montrer. Hop.
Gros
mais
bouquin.
J'en parlerai un petit peu plus tard en fait dans ma chronique. Du coup la sortie de The Irishman plus le bouquin que tu m'as offert, ça fait que depuis un bon mois en fait, je me suis complètement replongé dans son univers. J'arrête pas de me mettre toutes ces BO de ces films, j'ai pas mal d'images qui me reviennent de ces films.
D'accord.
Du coup j'arrête pas d'aller sur YouTube, je me remets des scènes assez cultes en fait de tout ça. Quand je me rase je m'amuse à faire De Niro dans la glace,
ouais,
donc
je vois bien,
ouais,
je
le ferai pas à la caméra. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas mal ça en tête en ce moment. Le dernier film Irishman m'a beaucoup marqué, même si j'attends un petit peu, j'ai envie de le revoir une deuxième fois.
Avec le recul, ouais.
J'ai un petit arrière-goût un peu bizarre en fait avec ce film.
C'est pas le fait de, je vais pas spoiler l'histoire ou machin. Moi, j'ai vraiment adoré. Hein. Mm-hmm. Les 3h30, je les ai pas vus passer. Ça a été vraiment un plaisir de retrouver les petits chouchous de Scorsese, De Niro, Pacino, Pecci bien sûr. Mais moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est de les voir vieux. Mais très vieux. Quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ça m'a presque fait un choc, en fait.
Ouais. En ayant lu pas mal d'articles, vu pas mal de vidéos et de podcasts, en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent d'une sorte de film crépusculaire ou testamentaire, en fait,
d'accord,
par rapport à ce film.
Ah oui, carrément.
Testamentaire,
quoi.
Ouais, comme si c'était un peu la fin d'une... Mettre un terme à une époque, en fait, mettre un terme
aux affranchis, aussi, parce que c'est l'équipe des affranchis.
Casino, Main Street, ça a beaucoup de films, en
c'est
fait,
ça.
De ça, quoi. Ouais, ouais.
Donc, il veut un peu, comme on dit, boucler la boucle, quoi.
Moi, je vois ça un petit peu comme ça, quoi. Ce qui me dérange ou pas dans le film, là où je ne suis pas vraiment habitué à Scorsese, c'est comment dire, le côté hyper mélancolique et triste du film. Mmh,
c'est ça.
Le côté, le rythme en fait du film qui change énormément de tous les autres films. Et c'est pas que ça a du mal à passer. Enfin, il me reste en tête. J'y réfléchis tout le temps. J'ai envie de le revoir. J'attends un petit peu.
Il faut attendre parce qu'on dit toujours, ouais, il faut le revoir pour mieux comprendre ou même revoir certaines scènes. Mais il faut pas le revoir trop tôt. Il faut attendre que ça mûrisse aussi, que ça se repose.
C'est exactement ça. Voilà. Ouais, ouais. Mais il me trotte en tête. J'ai des scènes. Et...
Ah oui, bien évidemment. Ouais, ouais. Moi, cette scène où il est assis De Niro et c'est lui qui compte l'histoire, c'est pour moi c'est
comme régulièrement dans les Scorsese, c'est une sorte de voix off, quoi.
Ouais, c'est ouais. Ça.
Complètement quoi. Bon bah du coup il y a ça, il y a eu pas mal d'actualités en fait sur sur Scorsese en fait. Bah du coup il y a Richman, ça fait ça va mon amour.
J'ai chaud.
Tu fais coucou au public.
Là, il y a des nouveaux arrivés.
Ah bonjour, pardon. Ça va.
Tu fais coucou au public. Non, il y a des nouveaux venus.
Ouais, ouais, je disais qu'il y a pas mal d'actualités en fait concernant Martin Scorsese dernièrement quoi. Bah du coup The Irishman qui a été annoncé il y a 2 ans, qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de
ça faisait 2 ans qu'il était annoncé, pas plus.
Je sais plus exactement.
Parce
pour être
que
honnête.
Ça faisait un bout de temps qu'il travaillait sur ce projet de Irishman, ça faisait une 20aine d'années non qu'il l'avait, Scorsese, qu'il l'avait sous le coude.
Il est, ouais, il a toujours pas mal de projets en même temps. Il a des projets qui datent de 10aines d'années quoi. Par exemple, le film Joker de Todd Phillips, il a été aussi au début impliqué. C'était lui qui devait même à l'origine le réaliser.
Le Joker.
Joker, ouais, ouais, c'est ça.
Avec
ouais.
Joaquin Phoenix là qui a été primé et tout, ouais. Ça devait être un Scorsese.
Il avait été approché pour le réaliser.
D'accord.
Il a été impliqué pendant quasiment plus de 4 ans dans le film. Et il a finalement décidé au dernier moment de laisser tomber pour des raisons un peu floues. On ne saura jamais vraiment pourquoi. Il y a eu quelques interviews dans lesquelles il en parlait.
Ouais.
Moi, je pense, il a un petit peu dit que c'était parce que ça faisait trop référence au film de super-héros.
D'accord, ouais, il n'avait pas envie de rentrer dans ce fameux cheminement de cycles et de séries avec les super-héros comme bah, tous les Batman ou
tous les DC Comics et tous les Marvel en fait. Quoi,
voilà, ouais, on en vient au fameux Marvel.
Je pense qu'il voulait... Ouais, voilà, c'est ça quoi. Ouais.
Voilà.
Il voulait
voilà.
Peut-être un film à plus... Mais je crois en fait qu'il voulait même à l'origine que le film s'appelle Arthur.
Ah oui, rien à voir avec...
De Joker. Bah okay. Ouais, ce qui le dérangeait, c'est que ça se passe dans l'univers de Batman.
D'accord. Ok, oui, il avait vraiment pas envie de rentrer dans cette histoire de super-héros.
Là,
quoi.
J'en parle, je connais pas vraiment tous les détails, mais...
De toute façon, c'est quelqu'un qui aime pas les franchises, de toute façon.
C'est quelqu'un qui nous l'a montré dernièrement,
oui.
Qui aime pas trop, qui aime pas trop les films Marvel, en fait.
Ouais.
Qui a eu des petites phrases pendant les interviews, en fait.
Puis il y a eu le... Bah, excuse-moi.
Non, non, vas-y, vas-y.
Non, mais il y a eu un gros clash, là, il y a quoi, un mois ou deux, je crois.
Bah, il a un peu déclenché la colère de tous les fans de Marvel et des internautes en déclarant que les films Marvel n'étaient pas vraiment du cinéma, que c'était plutôt une attraction.
Voilà.
Là où je suis pas complètement en désaccord avec lui, en fait.
Bah, c'est vrai, parce que toi, c'est pas du tout ton truc, quoi. Autant, moi, je peux regarder les Captain America ou même tous les films Marvel. Je veux passer un bon moment, si j'ai envie de regarder... Même The Endgame de Thanos, enfin tout ça. Mm-hmm. Toi, c'est plus un film de sieste pour toi.
Oui, complètement. C'est une grosse sieste.
Ah,
ouais.
C'est une très grosse sieste.
Non,
j'essaie
de regarder, mais c'est vrai que ça me touche pas. Mais je peux complètement comprendre qu'on adore ça, quoi. Et je comprends complètement son point de vue quand il dit que
c'est pas du cinéma.
Que c'est pas du cinéma. Après, le truc, c'est que ça a tellement été retweeté. Enfin, la phrase a tellement été isolée, juste ça.
C'est comme toujours, hein, dès qu'on sort une phrase de son contexte, de toute façon, elle perd ou elle prend de l'ampleur.
Pour ceux qui se posent la question, je conseille vraiment d'aller sur YouTube. Il y a 2-3 interviews en fait qu'il a fait dans lesquelles il va le dire, mais il développe vraiment pourquoi il dit ça en fait quoi.
D'accord.
Ce que je peux complètement comprendre.
Ouais, lors d'une interview quoi.
En gros, il dit que les films Marvel manquent beaucoup d'humanité et que en fait les nouvelles générations, en fait les gamins en fait qui regardent ça maintenant, ce genre de films ne vont laisser aucune trace en fait dans l'avenir.
C'est sûr qu'on est loin d'un Train de mes désirs ou de Racing Bull de Scorsese ou d'un Casino ou des Affranchis, ça c'est sûr.
Ouais, ouais, complètement.
Voilà,
ouais. Mais je peux comprendre pourquoi il est énervé, quoi. Le simple fait que The Irishman soit sorti sur Netflix.
Oui, déjà.
Ça soulève quelques questions, en fait, quoi. Il a eu du mal, beaucoup de mal, en fait, à trouver des producteurs.
Alors que c'est Monsieur Scorsese.
C'est quand même quelqu'un qui a 50 ans de carrière, en fait, qui a fait des putains de chefs-d'œuvre. Sortir un film comme ça en 2019 et ne trouver aucun producteur, ne trouver aucun budget.
Et avoir que la plateforme Netflix qui suit.
Bah, la plateforme Netflix qui lui a donné un contrôle absolument total en fait et le budget qu'il voulait pour pouvoir faire son film.
Ils lui ont laissé le total contrôle pour la réalisation de son film.
Un contrat. Mais Netflix fait généralement ça en fait quoi. Ouais, ouais.
Ok, putain, c'est cool.
J'ai même entendu que Netflix par exemple, ça pouvait même arriver qu'ils produisent complètement un film à des millions de dollars en fait.
Ouais.
Et qu'ils venaient même pas vérifier en fait sur le tournage. les producteurs pour voir comment
ça se
passe.
En fait, ils font le chèque et ils te laissent faire, quoi.
Donc voilà.
Oh, c'est cool.
Et le truc, c'est qu'il en a remis une petite couche à la sortie d'Ian Irishman.
Non.
En fait, en demandant, en fait, bon, ça, faut le prendre comme ça, quoi. En demandant aux gens de s'il vous plaît, ça commence comme ça, par pitié, ne regardez pas Ian Irishman sur un téléphone. Parce que ça devient une habitude que je peux encore une fois comprendre.
Oui, alors c'est vrai qu'un film ne se regarde pas sur un téléphone. On va le rappeler, un film, ça se regarde sur un écran.
Je ne veux pas rentrer dans ce débat.
Un grand écran avec un bon son, bien installé, avec une petite couverture.
Il faut absolument une couverture. Ah, ça ne se regarde pas sur un écran, mais avec une couverture. Ah,
c'est obligatoire, c'est obligatoire.
Donc voilà.
Un écran de téléphone, je précise.
Je peux comprendre tout ce qu'il a. En même temps, je me dis que c'est un mec qui a un petit peu les couilles de dire ce qu'il a envie de dire quand il veut.
Bah, en même temps, quand il parle, je pense qu'on l'écoute aussi. C'est quelqu'un aussi qui donne des cours de cinéma.
Ah ouais, complètement.
Donc, quand il parle, on l'écoute, quoi. Il a tous les conseils du monde à donner et il a toute l'expérience qui va avec.
Il y a un petit côté moralisateur à ce qu'il raconte, mais comment dire, c'est pas que je lui en veux ou pas, c'est que...
Il fait pas partie de la première génération, enfin, il est pas un nouveau venu sur le domaine du cinéma, c'est un ancien.
C'est un mec qui est à l'origine d'une nouvelle Hollywood, quand même, avec ses potes et tout, donc...
Il a été en cours, je crois, aussi, avec d'autres réalisateurs qui sont très connus.
Ouais.
Je sais pas.
Ouais, bah ça on verra ça un peu plus tard, quoi.
Ah, pardon.
Ouais.
C'était une question, en fait, je savais pas.
Donc voilà, en fait, je sais pas. Ce qui doit le déranger, c'est qu'on arrive dans une sorte de position où on ne considère plus vraiment le cinéma comme une œuvre d'art à proprement parler, comme la photo, comme la peinture, tout ça, mais juste comme un simple divertissement, quelque chose qui va s'évacuer assez rapidement.
Oui, je vois. En fait, ça perd un peu de sa magie et de sa créativité. Bah,
en fait, il a connu l'âge d'or d'Hollywood, en fait, quoi. Et là, il est en train de voir Hollywood ce qui est en train de...
De chuter.
Qui est en train de devenir, en fait, quoi.
De la production, de la grosse production
Disney,
de blockbuster.
La production d'Hollywood et tout ça. Et oui, ça pose problème. Et oui, c'est en train de l'énerver. Et oui, il a le droit d'ouvrir...
Il a le droit d'ouvrir sa gueule. Oui, on peut le dire clairement. Ouais, c'est clair.
Et donc voilà. Je voulais juste, excusez-moi, revenir un petit peu là-dessus. Il y a pas mal d'interviews de lui, vraiment intéressantes, dans lesquelles il va vraiment développer exactement ce qu'il pense. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a une info qui est tombée dernièrement là, c'est DiCaprio qui a annoncé justement la production d'un nouveau film
avec
de Scorsese, parce qu'il sera dans
D'accord,
le prochain
okay.
film évidemment de Scorsese avec Robert De Niro.
Oh, ça va être bon. Donc, on connaît déjà un petit peu le sujet parce que je pensais
qu'il connaît le nom et juste l'histoire. Je sais que le tournage commence au printemps.
D'accord.
Alors le nom, ça va s'appeler Killers of the Flower Moon, donc avec DiCaprio et De Niro. Qui je pensais, enfin je.
Pour moi, je pensais pas en fait.
Ouais, en fait, moi je pensais qu'ils avaient jamais tourné ensemble et que c'était la première, mais en fait ils ont déjà tourné dans Blessure Secrète en 93, film que j'ai pas vu et que je me suis empressé de. On va le regarder. Je vais le trouver là, on va le trouver.
Il faut qu'on le récupère.
Voilà. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un meurtre dans une réserve indienne de l'Oklahoma.
D'accord, donc on s'éloigne complètement de la mafia. Je pense que la boucle est bouclée avec la mafia, avec The Irishman.
Ouais, c'est pas la première fois qu'il.
Qui
s'écarte un petit peu de ce sujet, quoi.
Ouais. Bon, bah, c'est bien. C'est que des bonnes infos pour le printemps, là. Enfin, ça commence le tournage, là, au printemps, du coup.
Ouais, c'est quelqu'un d'assez productif. Quand il finit un film, il commence l'autre directement. Et on a généralement un film tous les 2-3 ans, en fait, de lui. Donc, voilà. Maintenant, je voulais revenir un petit peu rapidement sur son histoire.
Bah,
sur
carrément.
Sa jeunesse et tout ça.
C'est hyper important. Ah, d'où le fait que l'école... Le nouveau Hollywood.
Exactement.
Tchou-tchou. Pou 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 pou.
Ah ouais, ok.
Ok, bon, non.
Scorsese, c'est un mec qui vient d'une famille sicilienne très catholique. Et il faut savoir qu'en 56, quand il avait 14 ans, il est rentré au séminaire parce qu'il voulait devenir prêtre.
Rien à voir.
Tu savais ça ou quoi?
Non, pas
non.
du tout.
Okay.
Rien à voir, quoi.
Il voulait devenir prêtre, ça le...
Il est croyant, en fait, c'est un
il
pratiquant.
Est extrêmement quand tu vois ses films, ça se ressent assez régulièrement, en fait, quoi. Ouais. C'est comme le mec qui a réalisé son avant-dernier film, c'est Silence, sur l'Inquisition catholique au Japon.
Ça.
Il a réalisé la dernière Tentation du Christ. Mais en fait, ça ne va pas trop le faire, parce qu'il va se faire virer au bout d'un an, car jugé trop jeune, 14 ans, je peux comprendre, et trop indiscipliné.
Ah, bah tiens.
Donc, il faut croire que ça le correspondait pas. C'était quelqu'un qui était dispensé de sport, il avait une santé un petit peu fragile.
On ressent ce côté un petit peu fragile, rien que quand on voit l'homme, en fait. C'est quelqu'un d'assez petit, assez fin.
Ah, tu le ressens maintenant? Ouais, je sais pas.
Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un d'assez fragile, juste quand tu le regardes, en fait.
D'accord, ok.
C'est quelqu'un qui...
J'avais jamais pensé à ça, mais ok.
Je prends juste l'homme, la carrure. C'est vrai que tu as l'impression qu'il est fragile, faut pas trop le brusquer, quoi.
Ouais, ok. Et donc, ouais, non, il avait un gros. Non, non, il n'y a pas de souci. Ouais. Un gros problème d'asthme, en fait, ouais, qu'il avait très frêle. Et c'est pour ça qu'il va vite se rabattre dans les salles de cinéma.
D'accord.
C'est ses parents qui l'emmenaient. Pour une autre raison, c'est qu'il voulait éviter en fait, les problèmes qui pouvaient se passer dans sa rue. C'est quelqu'un qui a vécu dans la Little Italy, là où se passent la plupart de ses films de mafieux.
D'accord.
Et il a toujours été fasciné par cet univers, mais il a toujours voulu ne pas en faire partie. C'est...
Ok.
Il faut se mettre au contexte de l'époque.
C'est soit t'en faisais partie, soit t'arrivais à te mettre de côté et à éviter d'être en gros dans un gang, en fait.
Ouais. En fait, c'est marrant, quand je pense à son histoire, je pense souvent au film « Il était une fois dans le Bronx » de Robert De Niro.
Ouais, bah, voilà.
Tu vois ce que...
Ouais, tout à fait. Oui, maintenant je vois, ouais.
De Niro qui joue dans son film, qui est chauffeur de bus, et qui fait tout pour que son gamin qui vit dans Little Italy ne rentre
ne
pas dans la mafia.
Pas comme ça.
Parce que c'est tellement facile, tu vis dans cette rue, déjà t'es fasciné par ces bonhommes,
c'est ça.
Tu vas commencer à t'approcher d'eux,
ils
vont te demander.
Ils ont de la thune, ils ont des belles voitures.
Ils ont tout ce que tu veux dans un quartier pauvre, donc tu vas commencer à.
Et à l'inverse, dans Les Affranchis, on a Ray Liotta enfant.
Oui, c'est exactement. En fait, c'est la même histoire.
Qui va devenir amoureux de la Little Italy et qui lui va basculer.
Oui, c'est vrai que j'aurais pu citer ce film, c'est quasiment autobiographique.
Ouais, mais non, c'est peut-être pas autobiographique. Je pense que le tien que tu me cites est plus autobiographique, ouais, ouais. Justement, parce que son père l'empêche de virer dans la Little Italy en allant, lui, dans les salles de cinéma, alors que dans Les Affranchis, on a l'opposé. On a un gamin qui voit son père frapper sa mère. Ils n'ont pas d'argent et effectivement, bah, il va chercher du boulot dans la mafia. Mm. Voilà. Et c'est comme ça que Ray Liotta rentre dans Les Affranchis.
C'est ça, ouais, ouais.
Il a réussi à faire quand même des films complètement miroirs, en fait.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, en 1960, il intègre l'université de New York,
okay.
La Tisch School, dans lequel il va obtenir sa maîtrise en 66. 66,
yeah.
En 66.
En 66.
Et il va finir par donner des cours, c'est ça que tu disais tout à l'heure.
Oui.
Très rapidement après, il va finir par être professeur en fait, et titulaire dans cette école. Faut savoir que c'est une école d'où est sorti des réalisateurs comme Oliver Stone, Spike Lee.
Brian, c'est pas là qu'il était, Brian De Palma.
Brian De Palma, je sais pas, non.
J'ai
je crois
un
pas,
doute
non.
Parce que je sais qu'ils étaient super potes en fait.
Alors ils sont très potes, mais je sais pas si lui vient de cette école en particulier.
Okay, ouais.
Il y a aussi Woody Allen
ah,
qui
mais
est
non,
un...
Brian De Palma, il est avec George Lucas et Steven Spielberg.
Bah là on parle du nouvel Hollywood, ils sont tous, tous amis. Ouais, ouais, ouais.
C'est un peu.
Mais là je te parlais vraiment de l'école.
De celle-là quoi.
De cette école quoi.
Ouais, excuse-moi. Ouais.
Woody Allen qui est un réalisateur très très new-yorkais.
Il était dans cette école-là avec Woody Allen.
Non, moi je te parle de cette école a sorti des réalisateurs
comme Woody Allen.
Comme ceci quoi, ouais. Peut-être pas du tout à la même époque, mais ouais.
D'accord.
Et Night Shyamalan. Et je crois que c'est la première fois que j'arrive à bien prononcer.
Ouh.
Shyamalan. Ouais, c'est cool.
On ne dit pas Shyamalan.
Non.
Ah, mais attends, petite pause, je suis désolée de te couper. Vas-y. Regarde qui est sur le chat. Et nous avons Vincent
Viel.
Hey, salut à vous.
Ah,
salut,
c'est cool.
Salut. C'est cool que tu nous écoutes, c'est cool que tu sois là. Coucou!
Salut mon pote.
Tu peux lui faire un coucou à la caméra derrière.
Oui, exactement. Salut.
C'est trop cool. Ah ok, ça marche. Ah bah du coup, petit message à ma maman qui écoute. Ça va aller sur Balado. Alors, Balado Direct. Et Péremptoire va mettre le lien. C'est baladodirect.fr. Comme ça, tu pourras nous écouter là-bas. Parce que ça a l'air de...
De bloquer avec Twitch.
Voilà, bon.
Allez, on reprend. Désolé.
Alors, Scorsese a, à ce jour, réalisé 25 films. Et en fait, il a toujours collaboré avec la même monteuse. C'est une femme qui s'appelle Thelma Schoonmaker, qui a aujourd'hui 80 ans.
Ah oui, quand même, quoi.
Je l'ai bien dit, parce que j'ai noté 8 ans sur mon petit conducteur. Mais non, elle a bien 80 ans. Sinon, elle serait très précoce et très, très douée. C'est fou.
25 films à 8 ans. Elle est forte.
Thelma, en fait, elle a gagné 3 Oscars en collaborant avec Scorsese.
D'accord.
Qui sont Raging Bull, Aviator et Les Infiltrés.
Ok.
Donc voilà. En fait, quand je dis qu'elle a été monteuse sur quasiment tous les films de Scorsese, il y a juste 5 films auxquels elle n'a pas participé parce qu'elle faisait pas partie du syndicat des monteurs américains pendant 12 ans. Et c'est Marcia Lucas qui a fait l'intérim, qui a fait le montage des films de Scorsese.
Marcia Lucas.
Est-ce que ça dit quelque chose, Marcia Lucas?
Il y a un lien ou pas?
Un lien avec qui? Je ne sais pas.
Avec Georges?
Oui, c'est la femme de Georges. La femme de Georges Lucas qui a monté les films.
C'est Marcia Lucas qui a monté les films de
Scorsese. Qui est dans le cinéma depuis le début. Hein. C'est elle qui réécrivait les scénarios de Georges Lucas.
Je t'ai dit, c'est une petite famille, mais t'imagines les repas entre potes, quoi. Lucas, Spielberg, Brian, De Palma, Scorsese. Attends, mais t'imagines la bouffe, toi, Noël?
Ah oui, bah t'as Coppola, t'as tout le...
Non, mais... Ouais, les potes, vous ramenez des bières, on se fait un petit truc, tranquille. Hop.
Okay. Oui, voilà. Enfin, je sais pas, moi, j'avais oublié, en fait, ce truc-là, qu'elle avait 80 balais, en fait, quoi.
Ouais.
Et quand je pense au dernier film qu'elle a pu monter... je pense au le Loup de Wall Street, qui est complètement punk, qui est complètement hallucinant au niveau du montage, quoi.
Et on retrouve toujours ces fameux acteurs hein, qui suivent toujours les réals comme ça. Ils ont leur petit chouchou. Je pense à Léo, Léo DiCaprio, qui est le petit chouchou de Scorsese, quoi.
Je me rappelle quand
on le retrouve dans Shutter Island,
dans Aviator.
Dans Aviator, il est tout
le temps là. Ouais.
Mais c'est vrai que Léo, il est tout ce qu'il est. Mais moi, c'est un acteur. Plus il vieillit, plus je j'aime beaucoup, en fait. Il
ça fait un bout de temps qu'il a prouvé que c'était un excellent acteur. C'est clair. Ouais. C'est plus c'est plus l'acteur du Titanic, quoi. Mm. Depuis très, très longtemps. Quoi.
Ah bah, ça fait longtemps que Léo, il est congelé.
Ah oui.
Oh. Oui. Oh, c'était la blague du Titanic. Ah, oui. Elle a coulé, quoi.
Justement, je parlais de punk, en fait, quoi.
Ouais.
Scorsese, c'est souvent un réalisateur qu'on a considéré comme punk et rock. Il faut savoir que c'est un immense fan des Rolling Stones.
Ah.
Je sais pas, en fait, il suffit de voir ses films, les plans séquences qu'il peut faire, le montage, même toute la narration qui va s'articuler autour de la musique.
C'est très rock.
C'est complètement rock.
C'est complètement rock des années 60. C'est complètement rock, quoi.
En 69, donc au tout début de sa carrière, je crois que ça faisait 2 ans qu'il était actif en tant que réalisateur. Ça a été l'assistant réalisateur du documentaire de Woodstock. C'est là qu'il a été repéré par l'industrie.
D'accord.
Tu dois voir le documentaire. Bah, tu dois surtout voir le triple vinyle que tout le monde a et que tous nos parents, qui étaient un tout petit peu hippie.
Non, pas du tout.
Tu sais, c'est l'affiche avec les deux qui sont emballés dans une.
Ouais.
Ouais, ouais. Il a réalisé plusieurs documentaires musicaux. En 2003, il a réalisé du Mali au Mississippi, qui parle des origines du blues, que j'ai pas vu et qui m'intéresse beaucoup.
Ça doit être super sympa à voir, ça.
Ouais.
Parce qu'en plus, on pourrait peut-être même presque mettre en... Si on va, parce que moi, je ne l'ai pas vu non plus. On pourrait presque le mettre en corrélation avec la série qu'on a beaucoup aimée, Trémé. Qui parle aussi du blues et du jazz.
Oui, complètement.
Tu vois, on peut mettre en relation en plus avec plus de l'actualité. Ouais. Parce que là, ça va être dans les années 60, c'est ça ? 70.
Alors, je sais pas, j'ai pas vraiment d'infos. J'ai les origines du blues, donc j'imagine que ça monte vachement plus.
Ouais,
limite années 20 et années 30. En 2005, il réalise un documentaire sur la carrière de Bob Dylan, sur les débuts de carrière de Bob Dylan et ses premiers concerts. Je sais pas si toi tu l'as vu, vu que tu es une fan de
crois
Bob.
Je crois qu'il est sur Netflix. Il y a un reportage, enfin, il y a tout un documentaire sur Netflix.
T'as pas mal de docs sur,
sur Bob Dylan. Ouais, je crois que celui-là est sur Netflix.
D'accord, à voir, ok. Je vais regarder ça. En 2008, un de ses docs musicaux les plus connus, c'est Shine a Light, qui est un documentaire de concert filmé des Rolling Stones.
D'accord. Ah ben non, moi celui-là, je ne l'ai pas vu, tu vois.
Ah ouais ?
Et pourtant, je suis une fan des Rolling Stones.
Okay. C'est un concert filmé, en fait. C'est pas...
Un concert filmé par Scorsese.
C'est ça.
Des Rolling Stones.
En 2011, il réalise un documentaire sur George Harrison que je n'ai pas vu non plus. Pourtant, je suis un plein de fan des Beatles.
Ah, je pense que les deux, on va se mettre à regarder les documentaires de Scorsese et on pourra faire une autre chronique dessus.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ça pourrait être sympa.
Il a fait un autre doc, mais j'en parlerai un petit peu plus tard en fait, dans mes recommandations, dans mes références. Et en 1987, il a réalisé un clip qui s'appelle Bad, que tu dois connaître un tout petit peu.
Eh oui, tout à fait. Moi, je sais qu'il a réalisé le clip de mon chouchou, qui est Michael Jackson.
Ben oui.
Et parce que les deux, en fait, étaient plutôt, plutôt potes, en fait. Et Michael Jackson, qui est un précurseur au niveau de la création cinématographique dans le clip et la musique, demandait beaucoup de conseils à Scorsese, en fait, par rapport au plan, par rapport au maquillage, par rapport à ce genre de choses.
Okay.
Et c'est aussi grâce à l'équipe de Scorsese qu'il a pu faire des maquillages comme Thriller ou ce genre de choses.
D'accord, ok. Voilà. Très bien. Voilà, voilà. je vais en avoir à peu près fini de mon introduction. En fait, vous avez remarqué que je ne me suis pas énormément attardé sur tous les films.
Non, mais c'est pas mal aussi.
Parce que déjà, alors je vais vous avouer, ça fait une semaine que je dois bosser sur ma chronique et j'ai chopé une bronchite, j'ai été une semaine malade, donc j'ai commencé hier à travailler.
Oui, mais c'est bien.
Non, mais c'est très bien.
Pour quelqu'un qui est malade, qui a des vertiges et des palpitations, c'est pas mal.
Donc, quand tu commences la veille d'un podcast et que tu te dis c'est bon, je me lance, je prends mes feuilles blanches, je prends un bouquin et que tu t'attaques à 50 ans de cinéma.
C'est
50
chaud.
Ans de clips, de tout ce que tu veux, et tu dis vas-y, fais ton truc. Donc voilà. Il y a énormément de documentaires sur YouTube, j'étais assez étonné. documentaire français, documentaire américain, mais sous-titré français, donc il y a largement de quoi faire. C'est assez génial, c'est assez passionnant. Beaucoup de podcasts qui en parlent très bien aussi. Voilà, en fait, moi, si je voulais vraiment parler de Scorsese, il faudrait que je prenne un film et que je m'attarde pendant une heure ou deux sur un film.
Oui, vraiment
film
faire de l'analyse presque limite plan par plan, en fait, ouais, pour essayer de savoir d'où ça vient et mettre en relation avec son enfance ou ses études.
Il y a tellement de secrets de tournage, tellement d'histoires qui sont passées autour de. Ouais. Donc voilà. Et tiens, si tu nous offrais une petite bière, excuse-moi.
Je pense qu'une petite bière s'impose. Et en plus, on a perdu la caméra, donc c'est trop bien.
Ah, parce que on est passé sur balado direct.
Exactement. Alors, ouais. Tiens, une petite bière pour toi.
Tiens, je te remercie beaucoup.
Une petite Saint-Erwan.
Et maintenant, du coup, j'ai envie de te parler d'un bouquin. J'en ai parlé un petit peu au début du podcast.
Oui, tu l'as montré quand on avait encore la vidéo.
Oui.
Santé mon bibou.
Eh bien, santé ma bibounette.
Je suis vraiment contente d'être de retour.
J'ai envie de te parler d'un bouquin que tu m'as offert.
Eh oui, tu l'as eu.
Je ne veux pas dire qu'il y a une grande histoire sur ce bouquin. C'est assez marrant parce que j'en ai entendu parler dans un podcast. Et le soir, j'arrive, je me rappelle, je commence à t'en parler. J'ai dû en parler pendant 3 minutes et au bout des 3 minutes, tu l'avais déjà commandé sur Amazon sans m'en parler. Donc tu m'as dit, c'est bon, j'ai commandé. Et j'avais toujours pas fini de t'en parler. Donc c'est assez génial. 3 jours après, il est arrivé. C'est un bouquin qui s'appelle Conversation avec Martin Scorsese, qui est sorti en 2011 aux éditions Sonatine, que je connaissais pas, qui sont assez réputées, je crois, pour faire des bouquins sur le cinéma. Donc, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils font. Là, je te le montre, on parle quand même d'un gros pavé de 600 pages.
Oui, mais même moi, enfin, moi je suis une lectrice, mais ça se lit super bien, en fait. C'est vraiment un dialogue. Quand ça s'appelle Conversation avec Martin Scorsese, c'est
ouais,
ça.
Exactement, ouais. Ça a été écrit par Richard Schickel, que je connaissais pas, bah, en fait, qui apparemment n'est pas du tout connu en France, mais... aux USA, c'est une énorme star, en fait.
Ah ouais ?
C'est un journaliste et un critique cinéma qui a écrit pour le magazine Time et Life. Il est spécialisé dans les biographies, en fait, de réalisateurs ou d'acteurs.
D'accord.
Donc, il a écrit des bouquins sur, par exemple, Marlon Brando ou Clint Eastwood. Et à côté de ses critiques et de ses articles, il a réalisé plus de 30 documentaires sur le cinéma.
D'accord.
Donc, voilà.
C'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là. C'est vraiment le mec
très
qui maîtrise,
cinéma
quoi.
Américain et très nouvelle Hollywood, en fait. Quoi.
D'accord.
Il a fait, par exemple, 2 documentaires sur Star Wars, un documentaire sur Woody Allen, un autre sur Charlie Chaplin. Et comme tu disais avant, en fait, ce qui est vraiment important dans le titre de ce bouquin, c'est que ce n'est pas une interview, c'est une conversation. Là où est la nuance, c'est... comment dire ? On ne va pas avoir un journaliste qui est là à vouloir faire un...
Un stéréotype.
En fait, on n'a surtout pas un réalisateur qui est là pour vendre son film, pour faire de la promotion. Et on n'a pas un journaliste qui va être là pour faire un bon article.
Non, non, non.
Donc avec tous les...
On peut tout à fait imaginer une discussion autour d'une tasse de café
ou dans un parc,
ou ce genre de choses. Et c'est vraiment un échange, en savoir plus.
Scorsese et Schickel, ils sont amis depuis les tout débuts, le tout premier film de Martin Scorsese.
D'accord.
Et
Donc il connaît sa vie, il connaît tout en fait.
Et régulièrement, ils vont se retrouver autour d'un café, il connaît absolument tout de lui, comme tu dis. Et ils vont se retrouver autour d'un café ou autour d'un verre et ils vont juste parler de cinéma. C'est pas une interview, c'est pas je te soutire des informations, c'est pas des machins.
Tu peux nous lire une. Juste une question, une réponse ?
Alors ça, j'ai pas préparé. Je vous avoue que c'est.
Ah, excuse-moi, je te prends en défaut.
Ouais,
c'est
là,
le truc
tu me
à
prends
pas faire, c'est
dépourvu,
pas cool. Bon bah non, bah alors ce sera pour une prochaine fois. C'était juste une question, une réponse, un truc court. Si tu as une question courte et une réponse courte.
J'en ai pas du tout.
Bon bah tant pis.
Merci de me prendre comme ça, mais c'est pas grave.
Eh ben je suis désolée.
Alors j'avoue que c'est un bouquin qui coûte 40 balles.
Ouais, un truc comme ça.
Mais pour ce que c'est, ça les vaut largement. Enfin, si vous êtes fan
de Scorsese.
On va apprendre beaucoup d'anecdotes de tournage des acteurs. Sachant que De Niro et Scorsese sont très très amis. Tu me fais des petits signes, je ne comprends pas.
Non, mais c'est pas grave.
D'accord. Scorsese va beaucoup se confier, vu que ce n'est pas une interview, plutôt une discussion, il va énormément se confier
à
de
son
façon
pote, en fait.
Naturelle à son pote, on va dire ça, quoi. Oh, ouais. Sur l'état d'esprit, sur tout ce qu'il pourrait ressentir pendant qu'il tourne ses films, sur tous les problèmes. Scorsese, c'est quelqu'un qui est connu, qui s'est jamais vraiment caché d'avoir des problèmes de drogue, en fait. Et là, il en parle assez... c'est pas du voyeurisme, il va en parler assez simplement, en fait.
de façon tout à fait naturelle, en fait. Il va pas cacher. Moi, je l'ai feuilleté un petit peu ce matin au café.
Ouais.
Et effectivement, je suis tombée sur... je prenais des drogues. J'avais envie de foncer dans les murs, mais pas que les murs, les réals, les acteurs. Et en fait, il fallait juste que je produise, quoi.
Oui, c'est
que
ça.
Que je produise, que je réale. Voilà, c'était son truc, quoi. Et j'ai beaucoup aimé parce que, justement, voilà, comme tu dis, c'est une conversation.
Il n'a pas l'air gêné d'en parler, en fait. Quoi.
Non, ouais. Voilà. Mais tu as vraiment l'impression que tu as deux amis autour d'un café et puis tu as même des croquis de... Je suis tombée sur un croquis.
Ouais, t'as des images de tournage,
de Taxi Driver,
des croquis
quoi.
De storyboard. C'est assez génial en fait. Ouais.
J'ai trouvé le. Le croquis de la scène finale de Taxi Driver.
Oui.
Et j'ai trouvé ça génial parce qu'après, il parle d'une scène aussi dans Taxi Driver qui devait être une scène un petit peu, on va dire. Très très carré de Robert De Niro devant la scène du miroir où il dégaine.
Ah, la fameuse scène, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais.
Et en fait, il lui pose la question, comment vous avez tourné cette scène-là ? Ce n'est rien que de l'impro.
Ouais.
Et il voulait tellement quelque chose de carré qu'au final, il a laissé tourner la caméra et il a laissé faire son pote, quoi. Parce que oui, ils sont aussi amis.
Mais De Niro a une importance énorme dans la vie de Scorsese, quoi. C'est arrivé à Scorsese de faire des...
Bon, ma fille,
il a fait une overdose assez sérieuse un jour. C'est Robert De Niro qui a été le récupérer dans l'hôpital et qui lui a dit « Bon, maintenant, on se reprend, on va réaliser un film. »
Ah oui.
Et là, ils ont fait Raging Bull.
D'accord.
C'est que des histoires comme ça, quoi. C'est vraiment, c'est passionnant. Alors, en fait, c'est assez, je vais dire, facile à lire. Quand j'ai dit 600 pages tout à l'heure, ça peut peut-être un petit peu calmer. Mais en fait, le livre est chapitré par film.
D'accord.
Donc voilà, un chapitre, un film. On peut le feuilleter, on peut piocher dedans, on peut s'intéresser qu'à un film.
Oui, c'est genre, limite, le livre, tu peux le laisser poser, même l'emmener aux toilettes si tu veux.
Ouais.
Et tu dis, tiens, je vais aux toilettes pendant 10 minutes, tiens, tu peux te lire le truc sur Racing Bull ou sur d'autres... J'ai vu qu'il y avait aussi sur le documentaire des Rolling Stones.
Oui, Channel 8, ouais, exactement.
Donc ça peut être sympa, quoi, ça te prend pas beaucoup de temps.
Moi, je vois ça comme une sorte de making-of écrit, en fait, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est à toi de te mettre tes petites images de leur entrevue, quoi.
Donc c'est soit les films, soit des fois ils vont aborder des thèmes. Mais en fait, je pense qu'ils sont juste discutés entre eux. Et au final, Richard Schickel a décidé de créer des chapitres en fonction des... Par exemple, il va y avoir des thèmes comme Little Italy, le montage, la musique ou les couleurs.
Bah ouais, ce genre de choses.
Voilà.
Putain, c'est cool.
Donc je peux que vous conseiller ce film,
ce livre
et tous les films de Scorsese.
Tu veux l'appeler un film, mais bon, c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est un making of écrit, quoi. Donc
je vais quasiment avoir fini pour mon petit sujet, ma petite chronique. J'ai noté deux trois références, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur YouTube il y a pas mal de documentaires, de vidéos, d'interviews de Scorsese. Il y a une conférence que j'ai trouvée passionnante sur Jean-Baptiste Torret, qui est un historien et critique de cinéma français. Qui est spécialisé dans le cinéma américain et le nouvel Hollywood. Donc, tu as deux conférences sur Internet que tu peux trouver. J'en parlais aussi rapidement tout à l'heure. En fait, tu as un documentaire de Scorsese qui dure 3h45 qui s'appelle Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain.
Ah, ça pourrait mettre je pense, un genre de documentaire à mettre en parallèle avec la conversation. Tu sais.
Ouais, parce qu'en fait, ça parle pas de la même chose. Là, ça parle des influences que lui a eues pour devenir réalisateur.
Ah ouais.
Donc, ça parle du tout début du cinéma américain.
Un petit peu les western spaghetti aussi, comme Tarantino.
Ça va s'arrêter à partir du moment où il a réalisé son premier film en 69.
Ah oui, donc non.
Donc voilà.
On n'est plus dans les dates.
Pour faire un petit clin d'œil au podcast de René, il y a aussi une super émission du Cinéma est mort. Une émission de Canal B, qui à l'occasion de la sortie d'Irishman, qui a consacré un épisode en fait sur Scorsese et qui est assez génial. Donc voilà.
Et à écouter et à faire tourner.
Ouais. Donc il y a de quoi faire.
Eh ben c'était génial. Franchement, moi j'ai adoré. J'ai appris plein de trucs en plus.
Ouais.
Ouais.
C'est bien.
Franchement.
T'es là pour ça.
T'es là pour ça. C'est bien.
En avoir fini, moi, on va se faire une sorte de mini pause avec un peu de musique, un petit extrait de.
Eh bien, ce sera un petit extrait des Infiltrés pour la petite pause.
Alors, ça sera plutôt un extrait des Affranchis pour la
petite
pause.
Des Affranchis, j'ai dit quoi?
Des Infiltrés.
Des Infiltrés. Non, des Affranchis.
Donc voilà, on se retrouve juste après. Ça dure 3-4 minutes, même pas. Et
oui,
puis,
c'est ça.
Et puis voilà.
Bon, à tout de suite.
Ouais.
Non, ça c'est rien, ça. Ce qui est vraiment poilant, c'était l'attaque de cette bande de merde à ces cocus là. Putain, je me mets au milieu de la verdure, je suis allongé, il se ramène, il dit, tu fais quoi là? Je me repose. Ici, tu te reposes, sur un putain de banc dans le parc, j'ai pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué, je me repose. Il m'embarque, il commence à me poser des tas de questions, tu sais, patati, patata. Il fait alors, qu'est-ce qu'il va me dire, Rocaïne? Ben, je dis comme d'habitude, que dalle, niente, pourquoi je causerai? Pas chier. Alors il fait, non, aujourd'hui, tu vas me dire quelque chose, Rocaïne. J'ai fait, d'accord, je te dis quelque chose, allez, va enfiler ta mère. T'as eu les journaux, t'as vu ma tronche, j'avais des cheveux comme ça sur la tête, les enflés, putain, ouais. Alors après, je me réveille, tu vois, et puis je commence à émerger, j'ouvre mes yeux, et puis je vois sous mon nez la même tronche de con. Il fait, alors qu'est-ce qu'il va me dire maintenant, gros caïd? Je lui fais, ah bah merde, qu'est-ce que tu fais là? Là, je croyais t'avoir dit d'aller enfiler ta mère. J'ai cru qu'il allait se chier dessus. Et... boum, les enfoirés. Ah, tu sais, j'ai un gros balèze, des fois, je te dis pas.
Putain, tu me fais marrer. T'es vachement marrant.
Hein, comment ça, je suis marrant?
C'est marrant, tu sais. C'est marrant, c'est drôle ton histoire. C'est marrant, tu me fais rigoler. Voilà.
Tu veux dire quoi, ma façon de parler? C'est quoi?
Non, c'est... Tu sais, t'es marrant, c'est... C'est rigolo, ta façon de raconter les histoires, tout ça.
Et marrant comment? Qu'est-ce que tu me trouves de marrant?
Attends, Tommy, je
l'ai... Ah non, Tony. C'est plus un gamin et c'est ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que t'as dit, hein? Ouais, marrant, comment?
J'ai...
Quoi?
Tu vois, marrant.
Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, il faut que tu m'expliques, là. Hein. C'est vrai, peut-être que c'est moi, j'ai peut-être une case de vide, peut-être, je sais pas, peut-être marrant, mais marrant comme un clown, je t'amuse, c'est ça? Je te fais rigoler, hein. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire, marrant, comment je suis marrant?
Mais non, c'est ta façon de raconter une histoire, je sais pas, tu sais.
Ah non, j'en sais rien, c'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-moi ce qui est marrant!
Arrête d'être foutre de ma gueule, Tommy!
Oh l'enfoiré, encore un peu je l'avais! Hein. Encore un peu je l'avais! Non. Mais t'as vu ce con? Il en bégayait, hein! Il tremblait comme une feuille! Tu sais, il y a des fois où je me demande, Henri, tu risques de passer un tap sur le cuisine. Mais putain, mais qu'est-ce que tu manges? Il est. Mais je crois que je me faisais déjà embarquer, moi! Le salaud, il est perché sur mon cou comme un vautour, comme une épée d'asmoclette! Qu'est-ce que tu veux?
Là, il s'inquiétait, il n'osait pas venir t'apporter la question, tu vois, il dit. Enfin, si tu pouvais t'en occuper tout de suite.
Ouais, sans problème, dis-lui de le mettre sur ma note, ouais, bien sûr.
Justement, c'est de ça que je voulais te parler. Enfin, il n'y a pas que ça, tu sais, ça te fait 7000 maintenant. Cette putain d'unité que tu me dois. 7000 dollars, merde, c'est pas du préjige. C'est pas pour te manquer de respect ou quoi que ce soit, mais.
Tu veux pas manquer de respect, hein? Putain, ça me rassure que tu veux pas manquer de respect.
Non, je te respecte.
Tu m'appelles? Tu me fais péter la honte devant mes amis comme si tu me traitais de rapia de merde, tu sais?
Ah non, pas même.
Tu sais, t'es vraiment un pauvre mec, et quand
mais
tu fric qu'on laisse.
Mais enfin, ne sois pas comme ça, Tony.
Comment sois pas comme ça? Comment tu veux m'emmerder? Putain, mais c'est pas. T'as vu ce temps-là? Vous trouvez ça marrant, hein? Il me... Qu'est-ce que t'as, toi? T'es où ma photo?
Non.
Espèce enfoiré de mes deux. Qu'est-ce qu'il y a, banane?
Il est en forme.
Allez, bon, ça va, Tommy.
T'as vu cet enflure? Quel enfoiré, ce con, hein. C'est toi qui devrais t'occuper de ce genre de choses.
Tu sais quoi? T'es un marrant, toi.
Oh, ça va, Henri, cette fois, t'es bon. Et vous voulez rire? La semaine dernière, il m'a demandé d'être le parrain de son gosse. Ouais, pour 7000 dollars, moi je dis oui. Il faut sauter notre ami, hein.
Oh, t'es vraiment un marrant.
J'adore ce film.
T'es vraiment une marrante.
Ah, t'es trop marrant. En plus, j'adore Ray Liotta.
Ouais. Qu'on voit plus du tout, plus beaucoup en tout cas.
On l'a vu, bah, on le voit dans Irishman, mais vieux.
Ouais.
Et mais pour moi, ça reste le meilleur film après. Enfin, j'ai deux préférés chez Scorsese. Bon, maintenant, j'en ai peut-être un troisième. J'ai Les Affranchis, j'ai Casino, et j'ai peut-être Irishman, mais il faut que je le revoie. Donc,
ouais, ok.
Bon, je suis une fan aussi de Taxi Driver, mais c'est pas pareil, quoi.
Bon, c'est cool. Bon, pour moi, la pression est retombée, donc maintenant, ça va être à ton tour.
Eh oui, ça y est, c'est moi qui vais monter en pression, ça y est. Non, je rigole. Alors, par contre, moi, ça ne parle pas du tout de cinéma, hein. Ça n'a rien à voir. Hein.
D'accord.
Moi, on va plutôt retourner à la maison.
Tu veux pas faire la chronique avant et puis on y va tout à l'heure?
Non, on va retourner à la maison.
Ouais, bon.
Eh ben oui, moi je nous refais nous retourner à la maison parce qu'en fait je cherchais un sujet pour une petite chronique pour le retour des 6 mois et je n'arrivais pas à trouver de sujet. Mmh. J'arrivais pas, je tournais. Et puis j'ai eu ta voix qui m'a dit « Ah mais te prends pas la tête, parle d'un truc que tu maîtrises ». Puis j'ai la voix de Pépé aussi qui m'a dit « Ah, le podcast, c'est on se prend pas la tête, on prend du plaisir et
on
tout. »
On boit une bière,
on rigole, on se détend, allez. Et en fin de compte, ben, j'ai pas eu à chercher.
Ouais.
Et ben, en fait, je vais parler d'un truc que je fais depuis maintenant presque 5 ans. Je vais arriver sur ma 5e année.
Ouais.
Et ben, j'ai changé mes habitudes. Ça a commencé d'abord avec des huiles essentielles parce que j'en avais marre d'utiliser des médicaments. Par exemple, pour le mal de crâne ou mes douleurs au niveau du dos. Donc, j'ai commencé à utiliser des huiles essentielles. Et puis de là, j'ai commencé à vouloir réduire un petit peu ma consommation, surtout au niveau des déchets.
D'accord.
Alors, ça va être une chronique un petit peu de conseils qui a un petit peu fonctionné à la maison. Mmh. Contre toute réticence.
J'ai été réticent, moi.
Pas réticent, mais tu as été dubitatif. Je dirais dubitatif.
Je suis un vieux con, moi, j'aime pas les changements.
Ah, le changement, c'était pas maintenant. Et pourtant.
Mais
on
quand
y
tu m'as connu, j'étais déjà un vieux con.
Ouais, c'est ça.
Mais je crois que même tout petit,
j'étais déjà un vieux con. C'est ça. Donc en fait, nous à la maison, donc effectivement, on utilise des huiles essentielles comme l'arbre à thé ou la lavande qui font vraiment partie de notre pharmacie. Mmh. En hiver, on utilise aussi du Ravistara, par exemple, pour tout ce qui est agrippal, ce genre de choses.
D'accord, ouais.
Et après, ça a commencé, je vais plus m'acheter de crème au magasin, je vais m'acheter du beurre de karité qui est vieux comme Hérode et de l'huile de coco. Ok, donc tu te fais ta petite crème machin dans ton petit pot de récup, super. Et puis après, je me suis dit, ma poubelle, il y a vachement de bouteilles plastiques. Et du coup, des bouteilles plastiques, on est passé aux gourdes. Les poubelles ont diminué de 5 fois.
Ouais, ouais.
Donc on a vraiment bien géré là-dessus. Mais le gros changement en fait qu'il y a eu à la maison, en fait, ça se passe dans la cuisine. Mm. Ça se passe dans la cuisine et ça va faire depuis Noël. Et on attaque notre 3e année. Tout a commencé il y a 3 ans quand on était atteint de la grippe, ouais. Bloqué.
Je m'en souviens bien.
Voilà, oui. Bloqué dans un canapé. Ma maman en fait tricote et elle nous a fait. Je lui ai dit tiens si tu pouvais me faire des tawashi.
Qu'est-ce que c'est qu'un tawashi?
Un tawashi, j'en ai ramené 3.
Ouais.
J'ai ramené des tawashi faits en crochet.
D'accord.
Et j'en ai ramené un fait avec de la laine qui gratte. Mais ce en crochet laine classique fonctionne très très bien. Le tawashi, c'est quoi en fait? C'est une éponge qui vient du Japon. C'est des éponges à faire soi-même. Alors on peut les tricoter pour former un carré, un rond, enfin ce que vous voulez, une patte de chien, un bout de pamplemousse, tout ce que tu veux.
D'accord.
Et tu peux le faire avec de la laine spécifique, mais aussi avec des chutes de vieux vêtements, de vieux t-shirts, de vieilles chaussettes trouées, ce genre de choses.
Et donc, ce n'est pas forcément du lin, ça peut être du tissu assez classique. Quoi.
Voilà, carrément. Okay. Genre, tu as une chaussette qui est trouée, mais tu l'as déjà raccommodée 2 fois. Mm-hmm. Tu fais des bandes avec. Un petit tuto, en fait, super pratique sur YouTube. Décidément, c'est la promo de YouTube aujourd'hui. Mm-hmm. C'est de faire un petit carré en bois avec des clous et c'est une sorte de nouage en fait dessous à faire et ça te fait des éponges en tissu et ça marche super bien. Nous ça fait 3 ans qu'on l'a adopté à la maison et le premier qui a été réticent c'est Julien parce que Julien je lui ai ramené ça et quand tu changes d'une éponge à ça tu te dis ça va jamais laver, ça va jamais retirer le gras de ma casserole. Et là il y a péremptoire qui en a un dans la main, il est en train de faire non ça marchera jamais.
J'ai du téléachat quand tu fais ça.
Oui c'est ça. Et en fait, parce que Julien a fait des burgers, donc steak haché, voilà. On a laissé tremper, j'ai retiré les gros morceaux avec le doigt, machin et tout. Et là, je prends mon petit tawashi. Il restait encore du produit vaisselle à l'époque. Et avec le produit vaisselle, y a tout qui est parti, le tawashi. Et du coup, le tawashi a été adopté. Ce qu'il y a, c'est qu'avant tout ça, avant le tawashi, il y a un truc qu'on utilisait déjà à la maison, c'était le cake vaisselle.
Ouais.
Et c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui, le cake vaisselle. Vous allez mais révolutionner votre cuisine parce que c'est vraiment quelque chose de très pratique. Vous pouvez l'emmener où vous voulez. Vous pouvez récupérer un seau de glace, un vieux seau de glace, pot de glace, vanille, machin. Vous le nettoyez et vous allez faire votre petite mixture. Pour le cake-vaisselle, il ne va pas vous falloir grand-chose. Il va falloir 3 ingrédients. Du SCI, qu'on peut trouver sur Internet.
D'accord.
Alors, le SCI, c'est un tensioactif dérivé de l'huile de coco. Et en fait, il est présenté un petit peu soit en poudre. Donc, faut faire, c'est super moussant et c'est onctueux pour les recettes. Et c'est ça qui va générer la mousse, en fait.
D'accord, ok.
Que tu vas avoir la mousse et tu auras quand même les mains douces. Ça ne va pas t'agresser.
Quoi. Ok.
Voilà. Vous aurez besoin de vinaigre blanc.
Ouais.
Et de cristaux de soude. Alors, les cristaux de soude, ne cherchez pas, c'est le Saint-Marc.
Saint-Marc, ok.
C'est la petite boîte en carton qui coûte moins d'un euro. Franchement,
avec un petit bébé dessus ou je sais pas.
Ouais, un petit ange.
Ah, c'est un ange.
Ouais, okay. Voilà, c'est un petit ange. Franchement, le carton d'un kilo, vous en avez pour un an et demi. Vous êtes tranquille, quoi. Vous n'avez pas besoin de mettre cher pour faire des économies. Alors là, vous avez besoin de 100 g de SCI, 10 g de vinaigre blanc et 10 g de cristaux de soude. Vous en avez pour 20 à 30 minutes pour faire votre cache-vaisselle. Alors, ça demande un petit peu de... Bah, franchement, on a l'impression d'être une sorcière en train de faire sa petite mixture dans la cuisine.
Ouais, je t'ai déjà vu faire. En plus, tu fais des petits sons, genre... Donc, bah, évidemment.
Oui. Oui, bah oui, mais c'est trop marrant. En plus, ça mousse. Mais oui, donc, ça, ouais. Ça mousse, ça dépasse. Donc, c'est forcément, on se prend au jeu, on est là... Mon grimoire. Tout à fait. Alors, je vais vous donner la petite recette. Je vous la redonnerai, si vous voulez, en MP. Il n'y a pas de souci.
Ouais.
Donc, vous aérez bien la cuisine parce que le SCI, en fait, c'est volatile et c'est dangereux, en fait, pour les bronches. Voilà, vous aérez bien, d'accord. Fenêtre ouverte ou haute allumée. On ne met pas sa tête au-dessus de la préparation. Et si vous êtes maladroit ou maladroite, vous n'hésitez pas à mettre un masque et des lunettes de protection.
On ne le mange pas.
On ne le mange pas. Ce n'est pas mangeable. Vous allez voir, ça va être appétissant, mais ça ne se mange pas. Alors, au bain-marie, vous mettez du SCI à bien chauffer, à fondre en fait avec du vinaigre blanc. Et une fois que c'est fondu, vous sortez la préparation du feu et vous incorporez, mais vraiment, mais très doucement, très très doucement, les cristaux de soude. Alors pourquoi très très doucement, et j'insiste, parce que ça va vraiment mais monter. Prenez une très grande marmite, insérez doucement et remuez. Remuez énergiquement parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai pris une petite marmite, j'ai remis en dessous, il y en avait partout. Alors c'est bien parce que tout est propre après, mais ouais. C'est vraiment mode volcan. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, vous mélangez bien. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles, effectivement, comme de l'arbre à thé ou de la lavande. Moi, c'est mes deux huiles essentielles chouchou parce qu'elles sont antifongiques et antibactériennes. Et en plus, ça sent bon.
Ouais.
Donc vous pouvez mettre ça. Vous mettez ça dans un pot et vous laissez reposer un petit peu au frigo. Après, vous n'aurez plus qu'à le mettre sur le bord du lavabo.
D'accord.
Et à passer votre petit awashi dessus.
Ok.
Pour faire votre vaisselle. Voilà. Alors, il faut savoir que un pot de glace de cake vaisselle, vous en avez pour 6 mois.
Donc, avec la recette que tu m'as donnée, une fois que c'est fini, tu en as pour 6 mois de produits vaisselle.
Moi, j'augmente un petit peu les doses. Ouais. Parce que je le fais avec un gobelet, en fait. Et je me retrouve toujours avec beaucoup. Et je me retrouve effectivement pour 6 mois de cake vaisselle. Quoi.
D'accord, donc c'est quasiment bio. Et quand tu me dis 6 mois, c'est quasiment l'équivalent de voire quinzaine de bouteilles de cake vaisselle à la con.
Voilà, c'est ça. Okay. Bah, en fait, avant, c'était une bouteille de produit vaisselle par mois.
D'accord.
Donc là, on en est à 6. Donc ouais. Ça fait 6 bouteilles plastiques en moins. À savoir qu'une éponge, vous la changez, j'espère pour vous, assez souvent.
Ouais.
Ou qu'elle passe de la cuisine à la salle de bain et de la salle de bain au WC. Pour éviter quand même de jeter bêtement vos éponges que vous avez achetées dans le commerce, qui sont aussi emballées dans un plastique.
Ouais.
Alors que le tawashi, déjà, il va à la machine.
D'accord.
Déjà, avant qu'il soit destiné à aller à la salle de bain, vous avez du temps. Moi, les miens, à un moment, j'en ai marre de les voir dans la cuisine. Et même s'ils sont toujours en bonne santé, on va dire, oui, ils finissent dans la salle de bain.
Ok.
Voilà. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que là, les petits derniers que ma mamounette m'a fait... Pour Noël, eh ben, ils sont top parce qu'ils sont tout gratouillants. Je vais en lancer un pépé pour qu'ils voient la différence avec ceux qui ne sont que en crochet laine. Il y a un effet, une nouvelle laine, en fait, avec un effet gratouille. Alors, si vous tricotez pas, si vous n'avez pas du tout la main
comme
moi...
C'était ma question, quoi. Ouais. Est-ce que je compte pas m'y mettre tout de suite, en fait, au
tricot.
Voilà.
Ouais. Mais alors, si tu n'as pas du tout envie de tricoter, j'ai une de mes copines qui fait des tawashi et qui en a fait son petit business. Eh ben, c'est Twinkie.
D'accord.
Et elle a monté sa petite boîte qui s'appelle Créa Twin.
Oui, très bien. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et elle les vend chez Débaïdé, chez David, rue Saint-Hélier. Rue Saint-Hélier, ouais.
Super magasin.
Ouais, super magasin, exactement. Et c'est d'ailleurs là-bas, chez David, qu'on a aussi changé une autre habitude. Eh ben, c'est notre filtre à café.
Oui. Là, ça paraît con quand on dit ça comme ça.
Mais ça paraît con. Ouais. Mais les filtres à café, vous avez une boîte, vous avez 100 filtres, donc bon, 100 cafés, ok. Moi, je bois 3 à 4 cafés par jour. La boîte de café, clairement, enfin la boîte de filtres, c'est même pas un mois. Moi, toutes les deux semaines, il faut que je rachète une boîte de 100 filtres, quoi. C'est pas possible. J'en avais marre de ces cartons, j'en avais marre de ces filtres qui finissent à la poubelle. Hop, filtre à café réutilisable. Alors, bon, je ne coupe pas. Ma maman, oui. Donc, elle pourrait m'en faire en lin parce que, en fait, c'est un filtre en lin. Et le café, eh ben, il est top. Voilà. Donc, bah, du coup, plus de filtre à café à la poubelle. Le marc de café, de toute façon, il est récupéré. Que ce soit en dosette ou en filtre, le marc de café, vous le récupérez. Il n'y a pas de souci. Je vais vous donner plein de petites astuces avec le recyclage du café. Parce qu'il ne faut pas le jeter. C'est une donnée qui est hyper importante. Mais les filles, mais juste pour votre peau, quoi, le marc de café, mais ça fait trop du bien, quoi. Alors, le marc de café. Effectivement, il est mieux une fois qu'il est torréfié. Hein. Le prenez pas sorti du paquet parce que ça sert à rien. Vous buvez un petit café bien serré et après vous utilisez votre marc de café. Alors, si votre frigo pue.
Oui, parce qu'il peut arriver. Quoi.
Parce qu'il peut arriver. Hein. T'as mangé des fruits de mer à Noël, le frigo, il pue. Quoi.
Oui, ou tu mets tes fromages qui puent dedans. Quoi.
Ouais. Non, t'as un problème avec mes fromages qui puent.
Oui. Oui. J'ai un problème avec les fromages qui puent. Quoi. Ouais, ouais.
Eh ben, un petit ramequin avec du marc de café au fond du frigo. C'est
d'accord,
bon.
Ça va absorber l'odeur.
Exactement, ça absorbe l'odeur. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous laissez un morceau de citron dans votre frigo, eh ben, il va complètement sécher parce qu'il va absorber tout ce qui se passe dans le frigo.
Ok.
Voilà. Après, si vous avez des plantes, vous n'hésitez pas, il y en a une qui tire un petit peu la tronche, à mélanger un petit peu de marc de café dans le terreau. Vous remélangez tout ça avec un petit peu d'eau pétillante. Ouais. La plante, elle va repartir. Si vous avez, comme nous, un canapé noir et des animaux à la maison, vous pouvez mettre du marc de café là où les animaux dorment.
D'accord.
Vous laissez un petit peu agir et vous refrottez avec un torchon et vous aspirez bien évidemment le surplus et ça va redonner du noir au canapé.
Ok.
Voilà. Pour les hommes et les filles, en fait, moi j'ai une petite recette de gommage hyper facile à faire avec le marc de café. C'est de l'huile de coco, un tiers, et du marc de café, deux tiers.
Là, tu m'as forcé à le faire.
Ouais, et alors, résultat ?
Tu continues à me forcer à le faire.
Et hein ? Alors ?
Bah, c'est bien.
Elle est comment ta peau après ?
Elle est toute douce.
Elle est toute douce, voilà. Donc un tiers, deux tiers de marc de café. Vous pouvez en mettre moins si vous sentez que c'est un petit peu trop rugueux ou quoi. Vous mélangez énergiquement, donc forcément l'huile de coco au-dessus de 35 degrés, elle fond. Mm-hmm. Mais vous mélangez, même si ça devient liquide, c'est pas grave.
D'accord.
Vous mettez dans un petit moule au congélateur et après vous vous retrouvez avec un petit pain, comme ça, que vous pouvez utiliser sous la douche une fois que vous êtes propre.
Ah oui, une sorte de savon un peu. Enfin, ouais. C'est dur, en fait, c'est rigide, quoi.
Voilà, c'est d'accord, rigide. Okay. Vous allez prendre votre douche, vous lavez, et une fois que vous êtes tout propre, vous pouvez vous faire un petit gommage, vous rincez, vous virez le marc de café, et ça y est, vous êtes tout propre, tout doux.
Ok.
Voilà.
Pour le marc de café, t'as fini avec le marc ou...
Ouais, j'ai fini avec le marc.
Je sais que tous les surplus, parce qu'on garde absolument tout dans une grosse boîte, moi, tout ce qui nous reste, je le jette tout le temps dans les canalisations, que ce soit la douche, les lavabos, tout ça, quoi.
Exactement, exactement. Faut pas hésiter. On a deux jardins également à la maison.
Ouais.
Nous, on en met dans le jardin pour éviter les odeurs ou quoi. Moi, je préfère l'odeur du café à l'odeur, je sais pas, d'un pipi de chien ou...
Ouais, c'est ça, ouais.
Ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Après, au niveau de mes petits conseils qui ont changé également à la maison, je n'achète plus de produits d'entretien à part du vinaigre blanc.
Ouais.
Ça, c'est fini. Aussi, c'est pareil, depuis 4-5 ans, il n'y a plus de trucs chimiques, en fait. Le truc le plus corrosif qu'il va y avoir à la maison, ça va être de l'eau de Javel une fois de temps en temps.
Ouais, ouais.
Et c'est assez rare. Mais c'est vrai que nous, à la maison, on marche beaucoup au vinaigre blanc et on l'a mis en spray. On l'a mis en spray parce qu'il sert à la fois de nettoyant et de désodorisant. On en met même sur les canapés ou sur les rideaux. Bah, à l'époque, quand on fumait, ça sentait le tabac ou quoi, machin. Hop, un petit coup de spray. Ne serait-ce qu'avec les chiens, quoi.
Surtout avec les chiens. En fait,
ouais, avec les chiens, ouais. Parce que maintenant, on ne fume plus. Donc, c'est vrai qu'on ressent l'odeur des chiens.
Bien sûr. Ouais.
Mais c'est vrai que maintenant, voilà. Moi, dans un spray...
En fait, ça va remplacer une sorte de fébraise.
Tout à fait. Bah,
déjà
voilà.
Hyper cher et super dégueulasse.
Voilà, vous allez payer un pot de fébraise super cher. Et puis, au final, ça va... En plus, c'est nocif pour les animaux, les chiens ou les chats. Donc, c'est pas du tout intéressant. C'est dangereux pour eux. Alors que bah, voilà, là, vous êtes sur du vinaigre blanc. Vous faites un tiers. Et bien, on reste toujours sur le deux tiers. Vous pouvez rajouter, pour ceux qui n'ont pas de chat, j'insiste là-dessus, vous pouvez rajouter 2-3 gouttes d'huile essentielle, de lavande.
Pourquoi pas de chat,
En fait, les chats ont un odorat et une sensibilité qui est plus développée que les chiens.
Ouais.
Et du coup, il ne supporte pas du tout les huiles essentielles. Que ce D'accord. soit en diffuseur ou que ce soit à la maison, il ne faut pas utiliser d'huile essentielle avec un chat. Il ne faut pas qu'ils soient dans la même pièce. Si vous utilisez des huiles essentielles à la maison et que vous avez un chat, il faut aérer la pièce pendant minimum une demi-heure, trois quarts d'heure, sans que le chat soit dans cette pièce-là. Voilà.
Ok.
Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai fait un petit peu le tour. Il y a aussi... Alors, je suis venue aujourd'hui avec, en plus de mes petits tawashi qui restent, qui vont, à mon avis, être donnés à péremptoire. Comme ça, il nous donnera un petit retour après. Je vous ai ramené deux bouquins. Je vous en ai ramené un sur le vinaigre et un sur le bicarbonate. C'est 1000 trucs et astuces avec Inespéré. Et en fait, c'est génial. Parce que Inespéré, elle a... Inespéré. Vous avez vu le jeu de mots? C'était Inespéré.
C'est fou. C'est...
Les parents, ils ont vu loin quand même. Hein.
Ouais. Ok.
Elle était inespérée comme enfant. Bon, j'arrête. En fait, dans ce guide pratique du bicarbonate, bon, j'ai retrouvé des recettes que moi, j'utilisais également, entre autres comme celle pour les dents, dans un petit pot. Alors, quand je vous parle de mes petits pots, c'est des petits pots de miel ou de, je sais pas, à Noël, par exemple, vous avez eu de la figue ou ceux de confiture ou machin. Vous avez des petits pots en verre. Vous les récupérez, vous pouvez faire votre petite mixture dedans, que ce soit pour le cake vaisselle ou pour là, avec le bicarbonate.
Ouais.
Donc, pour les dents, le bicarbonate, c'est tout con. Vous mettez du bicarbonate, vous mettez de l'eau oxygénée 10.
T'as ce dessus, ça, du coup
en pharmacie.
Pharmacie.
Ouais.
Okay.
Et vous pouvez rajouter 2-3 gouttes d'huile essentielle de menthe verte. Et dans un petit requin, vous mélangez, ça va faire une sorte de pâte et vous pouvez vous brosser les dents avec. Ça blanchit, ça nettoie et c'est très bon pour la laine. Voilà. Pour ceux qui ont envie de fumer, parce qu'ils ont arrêté de fumer, je pense à certains qui nous suivent et qui nous écoutent sur Twitter, une cuillère à café dans un verre d'eau de bicarbonate de soude 2 fois par jour, ça coupe l'envie de fumer, en fait. Ça aide. C'est un petit coup de pouce.
D'accord.
Voilà.
Okay.
C'est le bicarbonate, en fait, ça a vraiment pas mal d'effets.
De vertu, quoi. Mais c'est un truc de fou. Hein.
Bah, en fait, ouais. Le bicarbonate, le truc qu'on oublie chez lui, en fait, c'est qu'il a un effet aussi dopant.
Ouais.
Qui est autorisé à tous, bon, sauf aux chevaux, mais bon, je crois qu'on n'en connaît pas, donc ça va.
Tu connais pas de cheval personnellement ?
Non, je connais pas de cheval. Ah ouais ? Non.
Bon.
Mais tu dois consommer, par exemple, j'ai une petite recette, une petite mixture qui peut redonner le coup de fouet quand tu es fatigué. Ça marche parce qu'en fait, le bicarbonate, c'est un alcalin qui augmente le pH sanguin. Donc, si tu as un petit coup de mou, tu prends du bicarbonate, du vinaigre de cidre et du miel, un quart de cuillère à café de bica, 2 cuillères de café de vinaigre de cidre, 1 cuillère à café de miel dans un verre d'eau. Tu bois lentement pendant que ça pétille et ça va te donner un petit coup de boost. Voilà. Et tu peux avoir un effet hot avec une petite pincée de piment de cayenne si tu veux. Voilà. Donc ça, c'était les trucs et astuces du bicarbonate. Et après, donc il y a un petit livre super sympa sur les 1000 trucs et astuces toujours inespérés aux éditions Le Centre du Livre Naturel. Et alors là, il va y avoir plusieurs vinaigres, que ce soit le vinaigre de lavande, champagne, cidre, vin, xerzès. Voilà, on va toucher plusieurs vinaigres. Et ça va être classé, par exemple, par problème. Alors, le visage, la maison, ce genre de choses. Et ça va vous donner plein de petites recettes, pareil qu'avec le bicarbonate, des petites astuces. Par exemple, pour celles qui ont les cheveux secs, vous pouvez vous rincer les cheveux avec, dans une bouteille de l'eau et du vinaigre de cidre, et ça redonnera brillance et légèreté à vos cheveux.
Waouh!
Voilà!
Ok.
Mais j'en ai plein d'autres, des petites recettes, mais la chronique serait trop longue et ce serait vraiment.
Ouais, pas mal d'infos en pas beaucoup de temps. Après, il y a moyen, ouais. Je pense, de te contacter en MP
pas
pour redonner toutes les infos et les références,
voilà.
de ces bouquins.
Il n'y a pas de souci. Et puis, si vous avez des questions ou même si vous avez envie d'essayer quelque chose ou même de changer vos habitudes et que vous ne savez pas par où commencer, dites-vous que même changer juste une chose, eh ben, c'est déjà pas mal. Je vois, nous, juste le fait d'avoir changé les éponges. Les éponges, c'est facile, 24 par an ou minimum 12 en tout cas. Donc c'est...
Oui, minimum hein, à mon avis.
C'est... Oui, c'est minimum. Ouais. Donc si tout le monde change, ne serait-ce que cette petite pratique-là par des tawashi ou ce genre de choses, eh ben, ça va réduire les déchets et sera déjà pas mal. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté pour ma petite chronique maison.
Ben, c'était très bien, c'était très cool.
Oui, j'en ferai peut-être une autre, je ne sais pas.
Ben, je pense qu'il y a tellement de trucs à dire en fait, là-dessus. Quoi.
C'est exactement ça. Et puis ça, les habitudes se changent assez facilement. Je pense à toi qui était vraiment réticent.
Ouais. Mais tu sais, au début, quand j'étais un vieux con, c'était pour la blague, mais pas tant que ça. Parce que
Je sais que j'ai mes habitudes et j'aime pas qu'on les change et j'ai du mal à... Bah, en plus, vois, un truc sur lequel je suis habitué depuis des années, c'est un peu compliqué pour moi de...
Bah, c'est même pas des années. Là, changer une éponge à 30 ans, enfin 27 ans, c'est... moi je sais que j'ai toujours utilisé des éponges depuis que je suis petite.
Ouais, c'est, ça, ouais.
C'est quasiment 27 ans ou 28 ans d'habitude à changer, quoi. Et la plus grosse, c'est celle-là, quoi. Et c'est là qu'on se dit, mais attends, mais ça va pas nettoyer, ça. Si, ça nettoie. Voilà.
Ouais,
et
ouais, ouais,
du coup, bah, tu laisses tremper dans de l'eau froide. De toute façon, que tu laisses tremper dans de l'eau froide ou de l'eau chaude, c'est pareil. Donc, utilisez de l'eau froide, surtout si elle est dans vos charges pour le boulot. Ouais. Dans votre appart, utilisez de l'eau froide, c'est pareil. Mais vraiment, c'est des... c'est juste de la laine, c'est juste du tissu, quoi. Donc, utilisez-les, quoi. Voilà, voilà. Okay. C'était cool comme retour.
Bah ouais. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, je crois qu'on n'est pas loin de là. On est... littéralement à la fin de l'émission.
Littéralement.
Littéralement, comme dans Parks and Rec.
Ah,
c'est littéralement la fin de l'émission.
C'est littéralement la fin de l'émission. Alors.
Je te remercie beaucoup, Bibounette. C'était très cool.
Bah ouais, c'était vraiment très très cool. C'était un plaisir de se retrouver pour ce petit moment
ouais,
au marathon.
On se promet qu'on va se retrouver un petit peu plus régulièrement
ah
et
oui,
un peu plus rapidement.
On va se retrouver
là.
Plus souvent. On ouais. va faire même peut-être des sessions qui ne seront peut-être pas d'une heure. Peut-être ce sera de 10 minutes ou d'un quart d'heure ou d'un minute.
Ouais, on se fixe pas de...
De temps.
De temps.
Ouais. Non. Et puis ce sera sans prise de tête, en plus il y a un voyage qui va avoir lieu cette année, donc vous retrouverez certainement Bibou et Bibounette en voyage.
C'est ça,
voilà.
Bah ouais, parce qu'on emmène le matos de podcast avec nous dans le camping-car.
Oui, parce que grâce au conseil de péremptoire, tout rentre dans un sac et tout est léger pour le voyage.
C'est ça.
En tout cas, merci à toi Pépé encore une fois pour l'organisation, pour tout ça.
Ouais.
Et c'était un plaisir d'être de retour.
On se quitte avec une petite musique.
Oui, et pas n'importe laquelle.
Come on, come on.